À votre santé, 221e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditeurs, auditrices de RVM.
Bonjour les amis du 93,7.
Et aujourd'hui, nous avons, en plus de nous deux, un invité.
Bonjour, Philippe Barrier.
Voilà. Alors, merci Philippe, parce que tu as été aux premières loges.
Juste une petite mise au point, Hélène. On est un petit peu coincé avec la technique, donc vous n'aurez pas de la grande haute fidélité. Hein. Vous verrez de vous-même. Voilà, voilà.
Merci, tu as bien fait, Daniel, de le dire, que nous ne sommes pas dans les conditions habituelles d'enregistrement et nous espérons que vous ne perdrez rien de notre échange. Voilà. Et donc, je vais commencer en disant que Philippe a été aux premières loges d'une question d'importance. Il s'agit des greffes. J'ai été alertée, le terme est comme ça, par un article de presse qui date pas trop, 5 mars 2024, parce qu'une association qui s'intitule la Société francophone de transplantation et des associations de patients, fait une alerte dans une tribune, dans un journal. Et donc, le problème, c'est la baisse importante du nombre de greffes. Et elle nous dit, donc, dans cet article, il nous est dit qu'une des causes qui n'est pas nouvelle, c'est la réticence vis-à-vis du don d'organes. Et je pense que là-dessus, Philippe Barrier saura bien nous expliquer ce qu'il en est. Mais juste quelques chiffres pour mesurer. Dans notre pays, il y a 26 donneurs d'organes par million d'habitants. Donc évidemment, tout le monde n'en a pas besoin, mais allons plus loin. Ça nous permet 5500 greffes réalisées avec 500 donneurs et donneuses vivants. Oui, mais ça ne va pas permettre de soigner tout le monde, puisqu'il y a 22 000 personnes en liste d'attente, et sur ces 22 000, 11 000, soit la moitié, dans ce qu'on appelle la liste d'attente active, c'est-à-dire qu'ils présentent une menace vitale à court terme. Je vais m'arrêter là pour les chiffres, parce qu'il y a aussi d'autres considérations que la question du don d'organes, et en particulier des conditions de soins dans les hôpitaux. Et donc, Philippe, j'aimerais bien savoir, parce qu'on dit le don d'organes, mais on a l'impression que parfois ça fait peur. Certains donnent des images, parce qu'il y a ce qu'on appelle le don à la science, don du corps à la science. Qui n'a rien à voir, et il y a le don d'organes. Donc, ce serait bien que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste.
Alors, moi, j'ai le bonheur d'en avoir bénéficié, et ça fait 29 ans, puisque j'ai été transplanté en 1995, rein et pancréas. Le rein fonctionne, le pancréas a fonctionné pendant 10 ans, ne fonctionne plus, donc je croyais être en retraite du diabète, mais j'ai repris du boulot. Ce qui compte pour moi, c'est que la fonction rénale continue de bien marcher, et elle marche remarquablement bien, ce qui m'a libéré de la dialyse, qui pour moi était un enfer. Il y a des gens qui arrivent à vivre en dialyse, mais c'est un handicap social, un handicap physique. Et...
Tu peux nous expliquer juste un peu concrètement, moi des personnes m'ont raconté, mais en quoi consiste le fait qu'on soit dialysé?
Alors, on est dialysé quand la fonction rénale n'est plus efficace, alors je ne sais pas à quel niveau on décide. Donc là, le pronostic vital est engagé. Hein. Si le rein ne fonctionne plus, on va mourir en quelques semaines, quelques mois. Donc on est soumis à un rein artificiel, la dialyse. Alors il y a deux techniques, je ne vais quand même pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de gens pensent, je vais me faire dialyser une fois, puis je serai tranquille. Sauf que c'est 2 à 3 fois par semaine, des séances de 4 à 5 heures.
Hein? Voilà. C'est terrible.
Sur un fauteuil avec le bras transpercé et le sang qui circule dans une machine à laver, le sang extérieur. Il y a des gens qui, rien qu'en entendant le récit, s'évanouissent. Donc c'est une vie très difficile. La fonction rénale n'est pas aussi bonne qu'elle peut l'être avec un organe. Bon, Il y a des gens qui passent 20 ans en dialyse, hein. Voilà, avec la réduction de vie que ça représente. Et j'y suis passé, j'ai eu très peur. Et moi, je suis un paradoxe vivant, c'est aussi pour ça que je suis philosophe. C'est-à-dire que c'est à cette période que je me suis marié avec ma jeune épouse, qui avait une grande confiance dans la vie et en moi. Et je ne suis resté que 7 mois en dialyse, grâce à cette double transplantation que je souhaitais, pour laquelle, je ne dirais pas que j'ai milité, mais il a fallu quand même faire valoir mon désir auprès des médecins dialyseurs.
Ah oui.
Mais bien sûr.
Ah oui, alors raconte quand même comment on est dans les dossiers qui sont...
Alors, je ne vais pas dire du mal des miens, parce que précisément, ils ont été ouverts, et même ils ont changé leur façon de voir, parce que j'ai été insistant. Et je les ai informés. Et le docteur de Frémont, pour lequel j'ai un grand respect, est devenu médiateur, etc. S'est formé en droit, en législation, etc. Et a compris effectivement que une vie en dialyse, c'est une survie.
C'est pas une vie normale. Une vie.
Mais je dirais pas que c'était tabou, mais il y a des centres. Si vous voulez, la dialyse, ça rapporte beaucoup. Ça coûte très cher, mais ça rapporte beaucoup. Bon. La transplantation, ça coûte très cher une fois, mais le patient coûte beaucoup moins cher après.
Bon. Et j'avais cru entendre qu'en France, on était très fort sur les dialyses et moins fort sur les greffes de rein.
Alors, on est fort techniquement, je veux dire, par rapport aux États-Unis, par exemple. Les États-Unis veulent aller, comme toujours, c'est la rentabilité. On les suit, hein, bien sûr. Mais en France, on est resté relativement raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a une durée de dialyse qui fait qu'elle est efficace. Aux États-Unis, ils ont décidé que c'était 4 heures, et on va plus vite, donc la personne souffre plus, c'est-à-dire qu'elle va faire de l'hypotension, parce qu'on accélère la machine.
Parce qu'il
faut rentabiliser le siège. Alors, il faut savoir aussi, ça va faire du mal aux gens d'entendre tout ça, mais que par exemple, en Angleterre, il y a quelques années, je ne sais pas où ils en sont maintenant, après 70 ans, il n'était plus question d'être dialysé.
D'accord.
Voilà, donc on euthanasie les personnes
en insuffisance.
C'est un coût social que la société estimait ne pas pouvoir. Voilà ce que c'est que des modèles économiques dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire sur le fond. Voilà ce qu'ils veulent dire. Donc en France, on a encore de la chance. Alors, je suis un peu éloigné de la question.
Il fallait le dire.
Pour savoir ce que c'est que la dialyse.
On voit bien que les questions de santé et l'argent sont de plus en plus abritées.
C'est géré par des associations souvent.
C'est institutionnel. Hein,
voilà, d'accord. Ça y est, ça a changé.
Ça fait longtemps. Et moi, j'ai travaillé à leur comité d'éthique.
L'établissement
français des greffes, quand il a démarré. Après, c'est devenu l'agence de biomédecine. C'est une agence d'État.
D'accord, c'est l'État.
C'est quand même quelque chose extrêmement sérieux.
Et solide.
Heureusement.
Et solide. Mais qui manque quand même de moyens, hein, comme tout ce qui
est personnel.
Voilà, c'est pas. Voilà, c'est le problème. Mais l'institution existe et elle est forte. Alors, pour être greffé, pour avoir une chance d'être greffé, il faut s'inscrire sur une liste d'attente de greffe. Et c'est les chiffres que tu as donnés, cette réalité. Alors, moi, je me suis intéressé à la question. Dès que j'ai été transplanté, j'ai pas milité, mais j'ai travaillé, j'étais encore enseignant, pas loin du système enseignant, j'ai fait de l'information auprès des jeunes pendant des années, donc je me suis bien documenté, j'ai travaillé avec des coordinatrices de greffe, avec des médecins transplanteurs, etc. Et alors, il y a 10, 15 ans, peut-être 20 ans, il y avait 8000 personnes dans la liste d'attente. Et là, on en est à 20 000,
non 10 000. 000 ou 22 000,
en liste active, c'est-à-dire ceux qui vont mourir dans l'année s'ils ne sont pas greffés.
Oh là là.
Voilà ce que veulent dire les chiffres que tu as donnés.
Oui, ça fait peur. Hein.
Alors, 22 000 personnes.
Non, c'est vrai que c'est sérieux. On a une copine dans une autre association qui vient de s'être fait une greffe dans l'œil, je ne sais plus.
La cornée.
La greffe de cornée.
Ouais.
C'est beaucoup plus facile.
Oui,
mais il y a des échecs également.
C'est plus facile de crever.
Pour dire que c'est sérieux, c'est que donc une date était fixée et tout. Et on a annulé l'opération parce qu'il n'y avait pas une qualité suffisante de l'organe à greffer.
Les greffons. Normalement, ça se teste avant. Hein. C'est curieux.
C'est ce qu'on lui a dit.
Oui, ben, bah, il nous disait avant l'opération.
Enfin, on rentre un peu dans la technique, mais il y a ce qu'on appelle un cross-match quand il y a besoin d'une compatibilité sanguine.
Ah, oui.
On a prélevé l'organe et on regarde la liste des gens. Ouais. On a tous leurs paramètres. Mmh. Le groupe sanguin fonctionne, il y a une meilleure compatibilité. Oui. Donc, celui-là va être attribué à telle personne sur la liste d'attente. En principe, ce n'est pas comme ça avec la cornée parce qu'elle n'est pas irriguée. Donc on n'a pas ce problème. Alors il était peut-être défectueux. Bon, ça c'est. Il y a des aléas. Hein. On peut pas.
Bien sûr. Mais bon, voilà. Maintenant, la fois d'après, c'est bien. Elle a eu l'opération et voilà.
Et
elle
c'est va bon. Avoir, c'est bon.
Mais tu t'interrogeais sur le pourquoi. Alors pourquoi ça recule. Il y a de moins en moins. Alors moi, les chiffres que j'avais encore, on était. Ça dépend des régions puisque c'est des agences régionales. On était à 33, on est monté à 36% d'opposition au don. Donc ça fait plus d'un tiers des gens qui refusent.
Oui, alors donc c'est là que tu dois préciser que en fait, si on ne s'oppose pas, s'il n'y a pas opposition.
Alors, la loi est complexe.
Ouais.
Je donne d'abord les grands principes. La gratuité, tout le monde le sait.
Oui.
Mais on se bat en France, y compris au sein de la communauté européenne et la communauté européenne au sein du monde, pour que ça reste. Parce qu'il y a des pays, dans les États-Unis, où ça s'achète.
Ah oui, oui.
Alors, dès que c'est un produit, il a une valeur marchande.
Ah oui.
Donc, c'est foutu.
Ah oui.
C'est foutu.
Ah oui.
Donc, la gratuité est absolument indispensable, évidemment. Oui. Il y a l'anonymat, les gens ne le savent pas toujours. Oui. Je ne peux pas connaître l'identité de la personne qui m'a donné, ou plutôt n'a pas refusé qu'on me donne ses organes. Et le troisième point qui est le plus complexe, c'est le consentement présumé, qui a évolué au cours de la loi depuis ses débuts en 1976. Ça reste quelque chose de complexe et d'ambigu. C'est-à-dire que effectivement les termes de la loi disent, si vous n'avez pas dit non, vous avez dit oui dans un premier temps. Mmh. On a fait ça au début. Et puis, sociétalement, c'était difficile à accepter. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir. Il faudrait que les gens, au moins, connaissent la loi, savent qu'ils sont donneurs, s'ils n'ont pas dit non.
Exact.
Bon, alors, ils ne le savent pas. Les gens ignorent. Je crois qu'il y a 70% des gens qui n'ont jamais entendu parler des termes même de la loi.
Certains.
Donc, c'est difficile de faire valoir que nul n'est censé ignorer la loi. Elle est pas... on n'est pas informé dessus. Et je trouve que dans le système scolaire, dans
les cours de SVT, etc. Exactement, il faudrait commencer à la
exemple,
base,
bien sûr. Bon, voilà. Donc, a été ajouté à ce principe, on va interroger les proches de la personne décédée, et là je parle du don sur personne décédée, pour connaître sa volonté. Et il a la possibilité de s'inscrire sur le registre des refus, ou de faire valoir son opposition en parlant autour de lui ou en ayant un papier sur lui, etc. Par contre, la loi ne reconnaît pas comme légale l'inscription sur une liste de donneurs. Elle n'a pas d'existence juridique. Il y a des associations comme la DOT qui militent depuis des décennies pour que ce soit reconnu. Ça n'est pas reconnu. C'est le consentement présumé, c'est pas le consentement explicite. Ça ferait changer la nature de la loi. Il y a des pays, comme le Canada, où c'est le consentement explicite, mais on a constaté qu'il y a moins de donneurs avec le consentement explicite. Parce que t'as beau dire « je suis pour le don d'organes », « j'irai m'inscrire le mois prochain ». Un geste positif, sociologiquement, on le sait, on va avoir du mal à l'institutionnaliser, à se dire « je vais faire la démarche d'aller m'inscrire », parce qu'il y a de la superstition, parce que les gens se disent aussi « oui, puis du coup, je vais avoir un accident mortel le mois prochain ». Enfin, il y a plein de réticences.
Ah,
donc,
oui,
le consentement présumé... Bon, le consentement présumé, c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'il soit connu et que la loi soit respectée. C'est-à-dire, les termes de la loi, c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, enfin les dernières moutures dont j'ai eu connaissance, c'est l'équipe de prélèvement doit enquêter auprès des proches, et la notion de proche est très ouverte, si, pour ça, alors excuse-moi, je n'ai pas le terme exact, mais la phrase exacte, c'est plus seulement les intentions, c'est si la personne décédée était opposée.
D'accord.
Si on n'a pas de manifestation de son opposition, on considère qu'elle est donneur. Et on pourrait prélever. Sauf que, les équipes médicales. Il y a eu des scandales, il y a eu des... dans la presse, il y a eu des... Enfin, ça fait des années, quand les gens s'intéressaient encore à la question, on a volé les yeux de mon fils, ce genre de
trucs. Entendu.
Bon, des choses vraies, des choses fausses, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les médias. Donc, ils sont extrêmement frileux. Et si une personne dans l'entourage dit... parce qu'elle y est opposée, dit non, non, il a dit non. Même l'oncle d'Amérique qui l'a vu, qui a vu trois fois son neveu dont on est en train de parler, ou la mère qui supporte pas l'idée que son fils est mort, parce que c'est ça le problème.
Bien sûr,
c'est qu'en fait, accepter de discuter de son avis sur ce qui viendrait après sa mort, c'est accepter sa mort. Or, c'est dans les premières heures qui suivent la mort va discuter de ça. On n'est absolument pas en état d'avoir non seulement accepté moralement, mais même compris. Moi, j'ai perdu peu de personnes, j'ai de la chance, mais quand j'ai perdu mon père, j'ai mis 15 jours à comprendre que c'était vrai.
Ouais.
Oui. Je me disais, oui, je ne le vois pas, mais je vais le revoir la semaine prochaine.
Oui.
Bon, alors quand c'est un attachement énorme, je ne sais pas, moi je ne peux pas imaginer perdre un enfant, mais quand c'est son enfant. On n'est pas en mesure de dire « Ah ben oui, je pense qu'il était plutôt pour. » Donc c'est impraticable. C'est presque impraticable.
Oui, alors moi j'avais pensé que ça pouvait être l'entourage qui pouvait donner son avis
propre. Alors il ne donne pas son avis propre, mais il le croit. Les équipes médicales, par peur, aussi par peur de blesser, parce que les gens sont dans un tel désarroi ou désespoir, c'est difficile d'aller contre ce qui s'est exprimé là.
Oui, je comprends. Mais écoute, moi, je me souviens avoir rempli un papier et avoir une petite carte. C'est-à-dire
on l'avait à la dot.
À la dot, mais faut savoir qu'elle ne voit rien.
C'est vrai.
Mais oui.
J'étais fier d'avoir cette carte dans le portefeuille.
Non, mais au moins ça fait connaître pour
les
gens.
On a fait des réunions.
Mais ça n'a pas valeur. C'est-à-dire que même avec ta carte de donneur, on interrogerait quand même ton entourage.
D'accord.
Non, mais si on donne à l'entourage.
Enfin, on a un préjugé. On sait que t'es quand même plutôt
pauvre. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Si c'est avec ta carte d'identité, etc.
Mais c'est pas un document juridique.
J'ai compris que c'est pas un document juridique, mais en même temps, c'est une indication pour l'entourage.
Bien sûr, je suis pas contre.
Et donc, voilà, moi, je me disais qu'on pouvait quand même dire quelque chose à nos auditeurs et auditrices. Quand vous voyez après comment des personnes qui ont été greffées, comment elles peuvent continuer leur vie normalement.
Je vais prendre pour exemple, parce que je suis un exemple incroyable. Je veux dire, moi, je loue la médecine française et le système de soins.
Absolument.
Aussi défectueux soit-il aujourd'hui par des choix politiques, mais n'empêche qu'il tient encore debout. Moi, ça fait donc 29 ans. Si j'étais resté en dialyse, je pense que j'aurais... je me suis marié, j'ai fait deux autres enfants. J'ai écrit des bouquins, j'ai fait des films, j'ai mené une vie la plus épanouie possible. Voilà, alors, je ne fais pas de l'alpinisme. Mes potentialités de vie ont été augmentées. Et puis aussi... je me suis réformé, c'est-à-dire que je me suis consacré, je fais des livres sur la santé, sur la philosophie de la santé, je me sens une utilité sociale que ce geste a permis.
Mais tout à fait, je pense que c'est fondamental que ce soit justement une personne comme toi qui l'a vécu, qui a pu être médiateur, et faire réfléchir au-delà d'ailleurs, avec tes livres quand même sur l'auto...
L'autonormativité.
Merci. chers auditrices, auditeurs, écoutez, pensez que ça peut être un de vos proches qui pourrait avoir besoin d'une greffe. Peut-être que vous le feriez vous-même, donner un rein, ça se passe.
Alors, je peux dire encore quelque chose. Il ne faut évidemment pas confondre le don de vivant et le don sur personne décédée.
Voilà.
D'accord. Différence. Mais ne serait-ce que ce raisonnement-là, pour vous dire que, je me dis que c'est après la mort, on peut être encore utile.
Absolument, c'est quand même une consolation, peut-être.
Merci, nous vous... Rappelons que vous pouvez nous écouter samedi 10h30, mardi 13h, jeudi 16h.
Et en podcast.
Bien entendu, voilà.
En français.
Au revoir, les amis.
Au revoir.